On parle beaucoup de savoir-faire, mais je pense que le plus important, c'est le faire savoir. Si on fait quelque chose de bien et que personne ne le sait, ça ne sert à rien. Et donc moi, ce que je dis beaucoup à mes équipes RH, mais aussi aux collaborateurs, c'est si vous êtes heureux ou s'il y a quelque chose qui est bien, faites-le savoir, dites-le.
Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau général.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job ?
Patati et patata.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, donc auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Donc on entend et on lit beaucoup de choses de la part d'un grand nombre de personnes, des conseils, des best practices, des tendances, beaucoup de conseils finalement. Mais pour remettre de l'ordre dans tout cela, on a invité aujourd'hui Thierry Jouzier, directeur des ressources humaines chez Sixt, pour participer à Patati et Patata.
Oui, parce que tu as oublié de dire patati et patata. Bonjour Thierry.
Bonjour messieurs.
Merci de nous rejoindre sur le plateau. On a plein de questions.
Parfait, j'espère avoir les réponses.
Oui, mais c'est obligatoire, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. On a une première question. Sixt est très connu, en tout cas pour nous. On a juste parlé hors antenne tout à l'heure, de peut-être que c'est une histoire de génération.
Une histoire de cible, hein, peut-être.
Une histoire de cible. Est-ce que la marque employeur est autant connue que la marque commerciale ?
Alors malheureusement non, moi je suis arrivé chez Sixt il y a à peu près 5 ans et demi et un des mandats qui m'a été fixé, c'était justement de booster la marque employeur. C'est-à-dire qu'on était très connu, comme vous le disiez, en tant que marque pour les clients, mais en tant que marque employeur pour les candidats, c'était très compliqué.
Booster la marque employeur, c'est booster la visibilité ?
Exactement, en fait c'est faire connaître aussi les métiers de la location de voiture.
Quels sont les métiers ?
Alors les métiers de la location de voiture, on a majoritairement des métiers en agence, donc au comptoir, donc le conseiller qui va vous accueillir quand vous avez une réservation ou quand vous voulez faire une réservation.
Ok, celui qu'on connaît tous.
Celui que vous connaissez tous. Et puis ensuite, selon les tailles d'agence, on va avoir des superviseurs, des responsables d'agence, des responsables de secteur et des responsables régionaux. Donc ça, c'est pour la partie ce qu'on appelle opération, donc toute l'activité des agences. Et puis après, on a les métiers sièges habituels des entreprises, du marketing, des ressources humaines, du commercial B2B.
Qu'est-ce que c'est quel ratio
C'est sur la 80% sur les agences et une vingtaine de pourcents sur
on
les...
On parle de quoi, 7000 collaborateurs
dans le monde.
Dans le monde.
En France, on est à peu près 900.
D'accord.
D'un point de vue business, les agences, elles ont toujours leur rôle aujourd'hui
Plus que jamais. Oui, un rôle fondamental pour l'expérience client. L'expérience client, c'est dans l'agence qu'elle se fait. Sur le parcours avant la réservation, via l'application qui est devenue majoritaire maintenant, et le digital, mais aussi en agence quand il arrive, quand il va découvrir son véhicule, quand il va avoir tout l'accueil qui va être idéal par nos conseillers.
D'accord, parce que c'est vrai qu'on voit, notamment dans plein de secteurs, et des secteurs qui ne sont pas non plus habitués à proposer de l'innovation, je ne vais pas me faire que des copains, mais notamment dans la banque, où on voit... beaucoup de digitalisation des agences. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est en pourparlers ou en ambition chez Sixt ?
Ça, c'est un fort sujet. On a été le premier loueur à avoir notre application. Et là, on est en train, dans différents pays, de développer ce qu'on appelle fast lane. C'est la capacité à aller récupérer un véhicule en agence ou en ville avec son smartphone et de l'ouvrir avec son smartphone.
Ça nous fait penser à des applications connues déjà.
Voilà, donc il y a des pure players qui sont sur ce segment.
Vous voulez l'ajouter à votre business.
Voilà, exactement. Nous, l'idée, c'est d'être on n'est pas un loueur de voiture, on est un acteur sur la mobilité, et quelle qu'elle soit.
Une expérience de mobilité.
Exactement. Ça peut être de la location courte durée, mais ça peut être du car sharing, du free floating, pour ceux qui connaissent.
Alors c'est quoi ça ?
Le free floating, c'est vous avez dans certaines villes, alors en France et à Paris particulièrement, c'est un peu plus compliqué, mais en Allemagne, Benelux et aussi en Suisse, on a des voitures qui sont garées un peu partout en ville, donc sur des places en surface, et vous pouvez prendre le véhicule à Zurich, à Berlin, à Munich, le même système que les trottinettes.
Ouais.
Et donc, vous la prenez d'un point A et vous la remettez à un point B où vous voulez dans la ville.
Et en France, ça n'existe pas.
En France, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, on a vu, il y a des acteurs comme Ubico, vous avez vu, qui ont remplacé Autolib. Et donc, vous prenez la voiture à un point A et vous la ramenez à un point A.
Ouais.
Vous ne pouvez pas la mettre...
Elle ne pourrait pas se ramener toute seule un jour.
Alors, les voitures autonomes, ça, c'est un sujet.
Ouais. Mais il y a un gros marché là-dessus. Enfin, je veux dire, finalement, si demain on est autorisé à faire rouler sa voiture sans chauffeur,
mais ça veut dire que pas les voitures.
Ça veut dire que
on est en partenariat avec une société qui développe les voitures autonomes.
D'accord.
Mais je pense que la problématique de la voiture autonome, elle est moins technique que légale, assurantielle,
oui.
Et tous les risques. On voit bien que voilà. Qui est responsable s'il y a eu un accident.
Il y a eu par exemple des projets sur des trottinettes, il y a des trottinettes qui se ramènent tout seuls en fait, se garer une fois que la trottinette a été utilisée. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'imaginer que dans votre secteur, un jour, ça puisse s'ouvrir. C'est-à-dire que là, ça révolutionnerait complètement votre secteur.
Ah mais le métier, enfin les métiers de la mobilité, si on en avait parlé il y a 5 ans, il y avait des sujets qu'on n'évoquait pas.
Parce qu'il y a une
plateforme. On a une plateforme de où on peut réserver les voitures, mais aussi on peut réserver un Uber-like. On peut réserver aussi une trottinette via notre application.
Ah.
On a un partenariat avec TIR.
On le sait pas.
Les trottinettes parisiennes que vous voyez.
On peut les réserver directement.
Exactement. Ouais. Si vous avez créé votre compte et que vous avez.
Donc c'est rapide en fait, parce qu'on a le sentiment parfois que réserver c'est long.
Ça c'est avant.
Il faut s'y prendre le
week-end. C'est avant ou chez les autres. Mais non, mais c'est très rapide, il faut que ce soit une expérience, en fait il faut que ce soit un plaisir. On sait que pour certains clients, c'est un stress de louer un véhicule, parce qu'on n'est pas habitué, parce que soit on ne dispose pas d'un véhicule et donc du coup on a besoin pour les vacances. Donc quand on arrive, qu'on voit les différentes problématiques de protection, de dommages, la qualité de la voiture, le GPS, plein de choses. Et donc nous, nos équipes, elles doivent rassurer, enchanter le client qui parte satisfait.
Aujourd'hui, ça représente. J'imagine que donc vous développez l'ergonomie de votre application pour qu'elle soit la plus à même de parler à votre cible, comme pourraient le faire des startups qui prioriseraient peut-être ce sujet-là. Est-ce que vous vous recrutez beaucoup sur ces postes-là, des développeurs derrière?
Pas en France, parce que pour le coup, on est un groupe, hein, Six pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est une société familiale allemande encore avec la famille Sixt.
À la tête.
Ouais, c'est une famille. Alors, on a les deux fils qui ont repris la direction de la société cet été. On a énormément de développeurs en Allemagne, en Inde et en Ukraine, majoritairement.
D'accord. Ouais. Okay. Mmh. Donc, qui eux travaillent en full remote? Qui eux travaillent en télétravail 100%?
Pas forcément. Pas forcément. Ils peuvent, mais pas forcément.
D'accord. Donc du coup, j'avais une question. Est-ce que c'est pareil d'être DRH chez Sixt? C'est compliqué. Chez Sixt, plutôt que dans une startup. Parce qu'à la fois, ça correspond quand même, le business correspond, mais là, on vient de parler d'entreprise familiale.
Alors, c'est... En fait, on est presque une startup. On fonctionne, on doit fonctionner dans une entreprise startup. C'est-à-dire que... on veut des personnalités qui soient entrepreneurs, on veut des personnalités qui...
Mais ils veulent tous des personnalités entrepreneurs, donc là...
Mais oui, parce que... Pourquoi faire, vous ? Pourquoi ? Pour développer le business. C'est-à-dire que finalement, si on considère qu'on travaille pour sa société, forcément l'investissement, la motivation va être plus présente. Si on est un pion, entre guillemets, dans une grosse organisation... On se sent pas reconnu, on trouve pas de sens forcément à ce qu'on fait, et donc c'est important d'avoir des personnes qui vont considérer que la meilleure location qui sera effectuée, elle valorisera cette personne.
D'accord. Comment on apporte de la reconnaissance chez Sixt?
Ça
va être long.
L'autonomie.
J'ai du mal à.
L'autonomie.
Ouais.
Le reward forcément. Ouais. On a un système de reward financier qui est très motivant pour nos agents.
D'accord.
Et nos conseillers, mais aussi la convivialité, l'esprit d'équipe, le sens collectif. J'étais hier à Venise avec le comité de direction France et Italie, parce qu'on est une région commune, les agents avec leurs responsables sont régulièrement à faire des repas tous ensemble, à faire des activités.
Donc vous avez gardé ça en fait.
Il faut, en fait, on considère que nos managers sont presque quasiment autonomes pour gérer, entre guillemets, leur centre de profit.
Donc c'est des intrapreneurs.
Exactement.
Okay.
Exactement.
Donc ils sont en CDI, mais ils vont gérer les choses de la même manière qu'un entrepreneur.
Exactement.
Son centre de profit.
Exactement.
Il est responsable de tout dans son centre de profit.
Tout.
De
sa flotte de véhicules au recrutement, à son...
Vous n'avez pas des recruteurs ou des talent acquisition qui vont les aider?
On va les aider, forcément. On intervient presque en cabinet de conseil interne presque. Ouais,
comme un groupe, comme une holding auprès de ses filiales. Quoi.
Exactement. D'accord. Exactement.
Et vous faites comment? Vous allez pour eux diffuser les annonces par exemple, faire de l'attractivité?
Oui, la marque employeur, pour y revenir, on développe toute la partie talent acquisition en amont, donc avec cette connaissance des métiers et des annonces. On travaille beaucoup avec Indeed pour diffuser très largement nos annonces.
Pourquoi Indeed?
C'est le numéro un aujourd'hui sur le
marché.
En
termes d'audience.
Oui, en termes d'audience. Ils nous accompagnent plutôt bien. Ils ont un système de paiement aussi pour nous, entreprise, qui est intéressant. On paye quasiment au clic.
Ouais. Aux enchères, mais il y a beaucoup de sites aujourd'hui ouais. sur lesquels vous pouvez diffuser
mais
aux enchères.
Mais ils n'ont pas cette audience qu'à Indeed. On teste, en fait. On a une
et vous restez uniquement sur un média?
Non, on est plus sur
plusieurs médias. Donc votre stratégie, c'est du multimédia.
Multimédia, mais le majoritaire est en Indeed.
D'accord.
Et après, on développe aussi donc cette capacité de présélection. Donc on envoie les candidats qui sont, entre guillemets, validés, tamponnés au manager qui les rencontre pour lui se faire voilà, le dernier sentiment.
D'accord, donc c'est le tamis, le premier tamis. Exactement. Et ensuite, c'est Exactement. Le manager qui...
Exactement. Vous avez des KPIs là-dessus? Vous arrivez à avoir... est-ce que vous avez un pourcentage du taux de qualité de CV que vous recevez par exemple? Alors, est-ce que vous mesurez ces choses-là?
Oui, on mesure. On a, sur, mettons, 1000 candidatures, on a 10% qui vont être
qualifiés. Qui passent en entretien.
Qui vont être qualifiés. Et après, on en a 1% qui est recruté.
Okay.
C'est à peu près voilà, ces ratios.
C'est ça votre ratio. Ouais. Mais si on ne parle que de l'attractivité, vous avez 10%. Et vous mettez des KPIs derrière pour évoluer ce 10% ou
En fait, on teste beaucoup de choses. Là, on teste la réalité virtuelle pendant l'entretien. Là, on teste le recrutement sans CV. En fait,
et vous regardez à la fin ce que ça donne.
Exactement. Et donc, on regarde, on définit les objectifs et les critères qui vont savoir nous dire si on est performant. Mmh. Et après, on veut faire aussi vivre, je parlais d'expérience client, l'expérience candidat, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on se bat tous sur les mêmes profils, dans le retail, sur la vente. Et donc, il faut être capable de les convaincre.
Dans le process du recruteur, on parlait d'instantanéité tout à l'heure ensemble. Finalement, est-ce qu'on n'est pas sur... Enfin, tout s'est démocratisé sur une instantanéité, c'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui,
il faut aller très vite,
on commande le soir, on arrive si on n'a pas le temps, on commande à manger, on commande ses billets de train, on commande vraiment tout en fait depuis son smartphone.
Ça s'est accéléré.
Est-ce qu'aujourd'hui, on postule de cette manière?
Alors,
mais est-ce qu'on nous répond de cette manière?
Alors, quand on postule est de cette manière, c'est-à-dire que moi je fais souvent la comparaison, je pense qu'on postule sur nos métiers, les métiers en agence, qui sont des métiers quand même de vente en retail, je pense qu'on postule comme on fait un match sur Tinder, comme on fait à droite, à gauche, et en une seconde presque, on peut postuler, et via Indeed notamment. Mais ça veut dire qu'on postule très vite,
ouais.
On ne regarde pas forcément exactement ce qu'on postule,
parfois,
on postule mal. Moi, quand mes équipes appellent les candidats, donc on les appelle très vite, parce qu'on sait qu'il faut réduire le temps de...
Oui, donc c'est une prise de conscience chez vous.
Il faut réduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire on attend 3 jours, on benchmark avec...
Il y a encore des entreprises qui sont là-dedans. Donc.
Et là, le changement culturel, il faut qu'il a été fait et c'est un... Je parlais un cabinet de conseil pour nos managers. Ça, c'est des choses qu'on communique beaucoup avec eux sur le fait de dire c'est plus possible maintenant que vous attendiez 3 jours. Il faut closer. Exactement. Ouais. Très vite.
Donc c'est quoi les timings? On a parlé de
timing, c'est donc la candidature à J+1, il faut qu'il y ait la préqualification, l'entretien. Idéalement l'entretien dans le lendemain ou dans les 2-3 jours. Et après, avec le manager, il faut sur une semaine maximum, il faut que le recrutement.
Vous pouvez promettre à un candidat qu'en une semaine, en fait, ils ont un retour. Soit positif ou négatif.
On a aussi testé des événements beaucoup plus collectifs de recrutement. Sur une journée, on a fait deux sessions de 6 job days en 2018 et 2019, du job dating un peu différent, où on leur promettait le lendemain d'avoir la réponse et de pouvoir
commencer les trucs.
Ça a très bien marché, puisqu'on avait présélectionné une centaine de candidats et on en a recruté une trentaine à chaque fois.
D'accord. Et ensuite, parce qu'on en a parlé dans nos autres épisodes de onboarding. Est-ce qu'il y a un temps de latence Est-ce qu'il faut resserrer ce temps aussi lorsqu'on a closé un candidat et qu'on lui dit ok, bon, mais tiens, tu viendras signer la semaine prochaine, il faut le closer. Une fois qu'il est closé, il faut le conserver aussi parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il ne vienne pas. Comment ça se passe chez vous ?
Il y a un parcours d'onboarding qui est très clair. C'est-à-dire qu'on ne met pas en agence, au comptoir, au contact du client, quelqu'un qui n'a pas été formé.
D'accord.
Formé techniquement et formé sur le sens de l'accueil client.
Et la formation prend combien de temps ?
La formation est installée sur 4 jours. D'accord. Donc, la première semaine. Il commence avec ces 4 jours de formation qu'on a depuis quelques temps un peu digitalisé. C'est-à-dire qu'on fait du blended learning avec un
digital. Vous avez gagné du temps, donc
Pas forcément. On a gagné une journée.
Les premiers entretiens, par exemple, se font en visio chez vous ou pas ?
Alors,
il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent, maintenant...
Ils se font en téléphone, donc pré-qualification téléphonique.
Vous faisiez déjà comme ça avant ?
Voilà. Ouais. Et normalement physique.
Ah, d'accord.
Mais avec les contraintes sanitaires qu'on a eues, on a fait... quasiment que des visios pendant...
Donc vous avez continué à recruter sur les mêmes ratios ? Même si vous étiez qu'en
alors,
visio ?
Alors non, il y a une phase où forcément on a beaucoup moins recruté.
Mais là, on revient Ça a changé votre manière de recruter ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des entreprises aussi qui nous disaient que finalement, ils ne recrutaient pas de la même manière en visio ? C'est-à-dire
alors, on recrute différemment, surtout on a des
profils
différents.
On s'attache plus au soft.
Alors, effectivement, là, ce qu'on a ouvert, c'est de se dire finalement, pour agrandir le volume de candidatures, puisqu'on a eu une baisse aussi du nombre de candidats, pour agrandir la base, il faut qu'on se dise, ouvrons-nous à des profils qui sont différents. Et c'est pour ça qu'on teste le recrutement notamment sans CV, et les soft skills sont les plus importants, puisque les techniques, de vente, ou les techniques d'outils digitaux qu'on a chez nous, on leur apprend. On leur apprend, ils sont ensuite coachés par des responsables de performance commerciale, par les managers au quotidien. Donc, s'ils ont le bon état d'esprit, s'ils ont la résistance au stress, s'ils ont la créativité, s'ils ont le sens du collectif, ça va le faire. En fait, c'est une mentalité qu'il faut qu'on ait parmi nous.
Ok. Alors, c'est très bien cette ouverture au soft, du coup. Est-ce qu'on se doit, en tant que DRH, de pratiquer de l'information auprès de ses managers RH ou de ses recruteurs pour leur dire attention, les candidatures que vous risquez d'avoir ne seront certainement pas les mêmes qu'hier, soyez aussi ouverts, plutôt que me dire bah tiens, le match Tinder, celui-là n'est pas qualifié, alors que potentiellement ce mec-là, cette nana, serait hyper qualifié. Mais est-ce qu'il faut le dire d'abord ? Est-ce qu'il faut informer les managers ?
C'est tout le change management qu'on doit faire. C'est-à-dire que on peut être convaincu, moi je peux être convaincu avec mon équipe, avec mon patron éventuellement, si mes 150 managers ils ne sont pas convaincus, c'est bullshit.
Alors comment ça se passe en interne, vous faites quoi ?
C'est les informer, c'est des réunions, des visios, se déplacer sur le terrain. Moi mes équipes de recruteurs sont sur le terrain.
Il n'y a pas de la réticence quand même un peu
Il y a de la réticence. Il y a de la réticence. Il y a le fait de dire non mais moi je sais recruter. Ça fait 10 ans que je sais recruter, tu ne vas pas m'apprendre.
Ou alors justement, non attends, un mec qui n'a pas fait ça, il ne pourra pas être bon chez nous, je le sais. Ça fait 10 ans que je le fais, etc. Un peu, mais je compare à ce qui n'est pas trop comparable. Mais tu sais, quand on mène des campagnes de sensibilisation au recrutement handicap, tu as les managers derrière qui te disent. Une personne en situation de handicap, selon le handicap, ne fera pas le même job qu'une personne valide. Ose le dire, en catimini, mais à huis clos en tout cas. Mais il y a cette résistance-là qu'il faut.
Oui, il y a ce frein, il faut les lever.
Un petit peu ces cadenas.
Et ça passe par des discussions, et ça passe par des. Ça passe par la preuve aussi.
Ouais.
Par apporter des preuves. On fait un POC. Et donc, on a. Moi, je reprends souvent l'exemple, on a eu un ex-accordeur de piano qui était chez nos top vendeurs sur la région parisienne il y a quelques temps.
On le fait qu'en interne ou on le fait aussi en externe ? Est-ce qu'on en
externe, bien sûr.
En communication externe, en branding,
C'est intéressant de se focaliser sur ce cas. Qu'est-ce qui a fait qu'il collait parfaitement aux valeurs ?
Sa personnalité. Et son sens de l'accueil client, je pense que d'un côté, la sensibilité qu'il avait peut-être sur la musique, il avait une façon de présenter, il racontait une histoire et les clients, ça passait très bien.
Ok. Comment on devient DRH de Sixt ?
Comment on devient DRH de Sixt en ayant pas mal d'expérience ? On est venu nous chercher, mais effectivement, qu'est-ce qui a intéressé ? En fait, moi, j'ai un parcours comme beaucoup de RH. En fait, en RH, on est mono-industrie ou mono, soit on est multi-entreprise. Donc moi, j'ai commencé dans l'assurance. Ensuite, j'ai été dans l'horlogerie. Ensuite, dans les FMCG,
chez PepsiCo.
Et là, dans le retail. Et donc, en fait, c'est finalement sur nos métiers aussi, c'est la capacité à comprendre et avoir le fit culturel avec l'organisation.
Est-ce qu'on vient pour une marque ou pour un challenge ou pour un secteur, justement, vous qui avez fait tous ces secteurs-là?
Pas pour un secteur, en tout cas me concernant, ouais. Pas pour un secteur. Pour un challenge, oui. Et pour un fit avec forcément son patron. Ouais. Et un alignement sur les valeurs. C'est-à-dire que si j'ai un managing director qui n'est pas aligné sur le télétravail sur...
compliquer la mission.
On entend beaucoup parler de bienveillance ou de qualité de vie au travail. Il y a forcément ces choses-là à prendre en compte. Et connaître, et là j'ai eu de la chance, voilà, mon patron actuel, il a son épouse qui est DRH, donc il est sensible au sujet.
Évidemment. Vous sentez que le monde RH est en train de prendre une place très importante dans le contexte actuel. C'est-à-dire que 6% de croissance cette année, 4% l'année prochaine, une pénurie comme jamais aux États-Unis et en Europe. On est en train de vivre un moment de bascule complet. Oui. On est de la génération, on a toujours connu un chômage haut. Et là, dans les 2 ans qui viennent, on va connaître un chômage ultra bas comme je pense on n'a jamais connu. En tout cas...
S'il y a une meilleure adéquation entre les postes et les personnes disponibles sur le marché du travail.
En tout cas, la formation, elle est en train de... On a déjà perdu 1% en un mois. Oui. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne se staffent pas ou qui ne réfléchissent pas à leur stratégie de demain. Est-ce que vous, déjà, vous réfléchissez à cette stratégie, en fait, quand vous aurez encore plus de mal à attirer et quand il ne faudra pas faire simplement 5 ou 6 médias, job board, etc., pour diffuser les annonces, mais qu'il faudra en faire plus? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça
ou, on est sur des réflexions quand même qui sont sur plusieurs années, ouais. Parce qu'on sait que...
5 ans, 10 ans?
Non, pas autant quand même, mais 3-5 ans, parce que dans 5 ans, on ne sait pas en fait.
Et comment vous voyez les choses à 3-5 ans?
Alors, il va y avoir forcément une utilisation différente des véhicules. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'usage versus la possession, donc ça c'est beaucoup dans les villes, mais c'est quelque chose qui va se développer. On voit que les typologies de véhicules, on parlait de véhicules autonomes, mais les véhicules électriques. Donc là, on a une crise dans l'automobile, la crise liée aux semi-conducteurs, et donc il y a une pénurie d'automobiles en ce moment. Mais donc effectivement, il faut réfléchir sur comment on va continuer à exister.
Sans personnel, on n'existe plus. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que le personnel va être de plus en plus dur à trouver. Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous pensez que vous allez être plus touché?
Alors plus touché aujourd'hui, sur notre segment, on pense que on a quand même mieux traversé la crise que nos concurrents, de par notre structure de société familiale, la capacité à pouvoir prendre des décisions qui sont quand même très rapides. Et donc, on sait que on a pour le moment un avantage compétitif. Il faut le garder et il faut encore plus l'accentuer. Et donc faire savoir à l'extérieur qui on est, faire savoir, alors pas par moi idéalement, mais plutôt par nos salariés, nos équipes, donc on parle beaucoup d'employee advocacy, et finalement, qui mieux qu'un conseiller en agence va pouvoir dire, faire entendre sa voix sur le fait que c'est un métier qui est certes compliqué, mais c'est un métier qui est hyper valorisant sur à la fois l'aspect financier, mais aussi la capacité à se développer, à grandir au sein de l'organisation.
Alors, oui, est-ce que je peux compléter? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Si on ajoute à tout ça aussi une politique de main environnementale, parce que vous parliez de politique de déplacement.
Oui.
Est-ce que vous avez conscience des besoins et des attentes des candidats d'aujourd'hui, notamment les plus jeunes générations, même si je n'aime pas catégoriser, mais on recevait juste avant... un invité qui nous disait qu'effectivement les jeunes générations attendent de l'instantanéité, mais sont aussi en attente d'avoir ils sont en quête de sens en fait. Qu'est-ce que je fais au sein de la société, mais qu'est-ce que cette société apporte à la société globale? C'est-à-dire, est-ce que Sixt permet le déplacement ou est-ce que Sixt permet le déplacement pour un meilleur usage de la voiture, pour sauver la planète, pour... Enfin, là je vais sur la politique, sur la démarche environnementale, mais est-ce que vous allez l'ajouter? Est-ce que vous pensez l'ajouter à des valeurs de bienveillance, etc., que vous nous avez nommées juste avant?
Oui, aujourd'hui, forcément, on a un impact sur la société, avec un grand S,
oui.
Avec l'utilisation de la voiture. Déjà, le fait de ne pas posséder et d'utiliser une voiture quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'une voiture, la plupart du temps, si vous possédez une voiture,
ouais,
elle est dans un parking et
c'est
elle ne roule pas.
C'est ça.
Et donc, c'est un vrai changement. C'est un changement aussi avec la qualité des voitures que l'on a. On a que des voitures récentes, et donc qui sont de moins en moins polluantes, avec un taux dans notre flotte qui, par la loi, devra être dans quelques
alors
années
peut,
très
on
vite.
On peut louer de l'électrique,
30%.
Par exemple.
On en loue, bien évidemment. Oui.
Après,
de l'hybride,
de
full électrique.
C'est quand même pas le sujet le plus simple. Hein, parce que
c'est pas le sujet le plus simple parce que.
Une borne sur deux fonctionne pas. Donc...
Et parce que le réseau n'est pas suffisamment développé.
Voilà.
C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez.
C'est peut-être même pas tant le réseau, c'est les bornes en fait qui ont un problème.
Oui.
Il n'y a
pas suffisamment de bornes et les bornes qu'il y a ne fonctionnent pas toutes.
Ouais, c'est un vrai. Ouais.
C'est un vrai sujet. Et donc.
Et quand on loue une voiture, on loue généralement pour 100, 200, 300 km.
Il y a différentes utilisations.
Ça dépend. Si on est sur des locations très courtes avec pour les
on peut
les
louer corpos. Sur du quotidien aujourd'hui.
Bien sûr. Oui. On a pas mal de personnes qui louent sur la journée. Après, on a des locations plus longues. Et là, effectivement,
pour de l'urbain pur.
Pour de l'urbain, pour
d'accord.
des rendez-vous professionnels, mais aussi pour d'autres raisons. Mais
c'est
après...
quoi les argus alors les argus de vente client, c'est peut-être moins cher, flexibilité.
Sur l'électrique ?
Ouais. Non, pas sur l'électrique, pardon. Est-ce que sur la. Parce que vous disiez que certains peuvent louer leur voiture plutôt que d'en acheter une. Il y a une histoire quand même de coût. Tu compares quand même, ça te coûte plus cher d'acheter une voiture ou de la louer, etc.
Et c'est plus cher de l'acheter que de la louer.
Ah, d'accord.
Ah oui,
donc ça, pour communiquer sur ça aussi.
Bien sûr. Et faire attention. Et alors sur le plaisir d'avoir un beau véhicule, parce que. On a aujourd'hui une flotte et de changer, d'avoir
c'était
des
véhicules. C'était pas toujours le cas avant ça.
Non, c'est pas toujours le cas. Et...
Maintenant, ça va peut-être changer. Non, mais... Moi, je trouve que quand on loue une voiture, on se dit, tiens, j'ai envie de me faire un peu plaisir.
Exactement. Ouais. C'est exactement.
Finalement, il y avait souvent, c'est déceptif. On en parlait encore en antenne. Tu loues une Mini Cooper et tu tombes sur une 206. Alors, j'ai rien contre Peugeot, au contraire.
Ouais.
Mais, sauf que du coup.
Mais ça, c'est un avantage qu'on a. C'est-à-dire qu'on est en capacité à avoir une flotte qui est. En fait, quand on demande
une marque,
si vous devez qualifier Sixte, qu'est-ce qui vient en premier ? Donc, premier, c'est le service client, une flotte premium, alors peut-être parfois des prix qui sont un peu plus élevés, alors que c'est pas nécessairement la réalité.
D'accord.
Mais une flotte premium.
Ça vient du fait que la flotte est premium.
Oui, parce que du coup, on associe la qualité du véhicule à son prix.
Au prix.
Et le quatrième point, certainement un accueil différent des autres.
Un service 5 étoiles.
Ouais.
En fait, c'est ça qu'on veut.
Oui, puis quelque chose d'un peu. On ressent comme une proximité peut-être un peu plus jeune que chez certains.
C'est la com commerciale qui te fait penser ça.
Exactement.
Et du coup, la com RH.
Alors, la com RH,
vous avez suivi.
Alors, on a suivi parce que finalement, cette com, elle n'est pas différente de ce qu'on est au quotidien.
Ouais. Vous racontez la même chose.
Et oui. Après, forcément. Quand on est à Gare du Nord et qu'on doit aller dans un parking, ça peut être un peu plus compliqué si on doit y aller dans des horaires de travail qui sont à rallonge. Mais il y a un côté quand même exigeant du métier. C'est un métier où on est ouvert tous les jours de l'année dans les aéroports avec des horaires très tôt le matin, très tard le soir. Donc ça peut être compliqué. Mmh. Et les profils qu'on a doivent le savoir. Et donc on est là, nous, en éducation sur aussi ce métier. Donc il y a des côtés, entre guillemets, négatifs, mais il y a énormément de côtés positifs. Sur,
le socle de votre donc de vos valeurs, parce que vu que votre marque employeur est la même que votre marque commerciale, est-ce que ce qui découle de cette marque commerciale / RH, ce sont des valeurs que vous avez identifiées, des piliers que vous avez identifiés ?
On a un ADN très fort sur, je parlais d'autonomie, je parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, je parlais d'exigence aussi, de résultats. On est forcément très très focalisé sur le résultat, mais pour le coup on associe, il n'y a pas de sens, mais il y a l'exigence, mais aussi la bienveillance. C'est-à-dire qu'on sait aussi que si on n'a pas un management qui va être inclusif, qui est présent, on perd les gens. Les salariés, ils quittent plus un manager qu'une entreprise.
Oui,
et donc ça, c'est aussi important d'avoir des managers qui soient alignés.
Donc, on continue d'aimer la marque, même si on n'est plus dans l'entreprise.
Exactement.
Ça,
il y a une fierté.
Possible.
En fait, on veut que nos clients soient fans de la marque.
Et vos collaborateurs.
Si, alors, si on pouvait arriver à avoir des collaborateurs parce plus que, fans de la marque.
Parce que c'est ça, vous disiez ce que les clients disent habituellement de nous, de notre service, c'est premium, flotte premium, etc. Qu'est-ce que disent vos collaborateurs?
Alors, nos collaborateurs, on a des enquêtes Pulse.
Des enquêtes, ouais,
des enquêtes Pulse régulières. On participe aussi à des classements comme Happy at Work, où on a été ranké numéro 1 sur notre taille d'entreprise. L'année avant le Covid et l'année on a quand même participé l'année 2020 et on a été numéro 2 sur notre catégorie, donc on a un peu baissé.
C'est bien. Et il ressort quoi du coup
en fait, justement, en fait, ce qu'on dit, en fait, finalement, je dis pas autre chose que ce que pourraient dire nos équipes quand on leur donne la parole sur Instagram ou sur nos réseaux.
Donc, vous avez des comptes ouverts aujourd'hui
on a un compte carrière.
C'est pas que le commercial.
Oui, on a le compte Sixte, marque commerciale, mais on a aussi le compte carrière qui est...
Il s'appelle comment?
Sixte Carrière.
Sixte Carrière, ok.
Donc là, je peux prendre contact, enfin, j'ai envie de travailler chez vous, j'ai envie de découvrir vos métiers, etc.
Ouais. Ça peut passer par Instagram?
Ah oui, en fait, nous, les canaux d'entrée, plus ils sont différents...
Donc là, il y a de l'instantanéité chez vous.
Oui, oui.
Vous êtes en connexion avec ce que demandent les candidats, c'est-à-dire
on est obligé. C'est-à-dire que on pourrait se dire non, nous on veut continuer à avoir un choix de 3 candidats et respecter.
Et derrière le compte, vous avez un community manager ou vous avez un recruteur?
En fait, c'est un binôme où en fait c'est RH qui gère. D'accord. Néanmoins, on demande. On n'est pas des spécialistes du community management, on demande quand même
des
tips au community manager.
Ouais, d'accord, mais en tout cas, vous avez eu le réflexe dans votre process de mettre en fait un recruteur derrière.
Ah bah, oui, en fait, mais de toute façon, la marque,
c'est des binômes.
C'est un binôme marketing, marketing RH. C'est-à-dire qu'on s'appuie les uns sur les autres, sur nos okay. forces.
Est-ce que selon vous, le marketing RH existait avant? Ou est-ce que c'est quand même nouveau avec ce qu'a...
Alors, il n'existait pas avant que j'arrive chez Sixte, mais il existait en RH. Mmh. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on... On parle beaucoup de savoir-faire, mais je pense que le plus important, c'est le faire savoir. Mmh. Si on fait quelque chose de bien et que personne ne le sait, ça ne sert à rien. Et donc, moi, ce que je dis beaucoup à mes équipes RH, mais aussi aux collaborateurs, c'est si vous êtes heureux ou s'il y a quelque chose qui est bien, faites-le savoir, dites-le. La culture du feedback, on en parle beaucoup en ce moment en interne, mais c'est des choses où il faut avoir cette transparence. Et
Équipes chez vous peuvent remonter, ils ont des plateformes, un endroit où ils peuvent remonter des infos améliorer les services par exemple.
Exactement, on a avec le Covid voulu garder un lien avec nos personnes qui étaient parfois en activité partielle, parfois en télétravail, donc on a lancé des newsletters beaucoup plus régulières où on laissait la parole aux personnes pour aussi remonter soit ce qu'ils avaient à améliorer, ce qu'ils voulaient que la société améliore, soit qu'ils donnent des idées pour booster.
C'est du full-time que vous proposez? C'est des jobs
oui, à temps complet? Quasiment, quasiment. Alors, que CDI et quasiment que full-time.
Sur
tous les métiers.
Sur tous les métiers.
Ouais.
On lisait sur votre site un slide du site Carrière qui parlait d'enchanter les clients. Comment on les enchante les collaborateurs du coup?
Alors déjà, on les enchante pas tous pareil, parce qu'on n'est pas tous
sensibles.
Parfois
on les enchante pas même.
Parfois on n'arrive pas à les enchanter. Quand je parlais du parking de Gare du Nord, bah, il n'est pas très enchanté quand il faut aller naviguer entre,
entre les drogués. C'est plus difficile, bien sûr.
Mais non, l'enchantement, il va passer par le remerciement, l'autonomie, mais il va aussi passer par... le reward financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un système de bonus qui est très très rémunérateur pour nos équipes.
En fidélisation, vous avez des...
En fidélisation.
Il existait par exemple il y a 20 ou 30 ans dans les entreprises beaucoup beaucoup des médailles. Est-ce que ça existe chez vous?
C'est des roues ou des volants?
Non, on a développé un système de badge digitaux où n'importe qui dans la société peut attribuer un badge de remerciement ou de félicitations à quelqu'un dans l'organisation.
En transversal.
En transversal.
Ça peut être moi conseiller qui va...
Mais ça peut être vous, directeur marketing, qui êtes allé récupérer une voiture à l'agence de Chalon-sur-Saône et vous avez été super bien accueilli. Et ben un badge de remerciement qui peut être... Et qui sera visible de tout le monde en plus.
Donc ça,
en fait,
visible sur un intranet ou sur...
Visible sur l'intranet, exactement.
Ouais, c'est vos étoiles Google à vous, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est très bien.
Ouais. Alors après, tout le monde n'est pas sensible à ce système de tape dans le dos, on va dire.
Les salariés portent les valeurs de Sixt aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous avez remarqué ça?
Pas suffisamment. Honnêtement, pas
suffisamment. Vous avez la volonté d'avoir une stratégie d'employé advocacy, mais aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas mis tout le monde autour de la table sur ce sujet.
Non, on est nombreux, on est organisé quand même avec pas mal de dissémination.
Non, mais vous auriez peut-être remarqué que
on a des ambassadeurs
du Orange ou je sais pas. Enfin.
Alors sur les réseaux, beaucoup ont une photo de profil qui va être, je parle de LinkedIn.
C'est déjà un début.
Ouais. Exactement. Mmh. Non, ça marche, mais quand je dis pas suffisamment, c'est-à-dire que moi je voudrais que.
Il n'y a pas de ligne directrice qui partage.
Il y a une ligne directrice, mais je voudrais que ce soit partagé par 100%.
Est-ce qu'ils vont partager l'épisode Patati et Patata, par exemple?
Exactement. Exactement.
On les invite à le faire.
S'ils se reconnaissent, ils vont partager, c'est
Est-ce
ça.
Est-ce qu'ils vont vouloir partager une communication du DRH?
Ouais, c'est ça.
C'est aussi un autre sujet.
En tout cas, on les invite à mettre du commentaire pour commencer en fait cette fameuse stratégie d'employé advocacy. Mmh. Donc, non, mais réunir les collaborateurs autour d'un socle, c'est bien ça l'enjeu.
Exactement.
Et puis si on est d'accord avec ce socle, le faire rayonner à l'externe. Merci beaucoup Thierry pour ce message très intéressant qu'on connaissait pas chez Sixt pour le coup. Ouais.
Et donc, c'est notre problème aujourd'hui, c'est-à-dire que je parlais de faire savoir il y a quelques minutes.
Ouais.
Je viens du FMCG et donc il y a des métiers de catégorie management. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand on travaille pour Tropicana, par exemple, on va chercher à développer la catégorie des jus. Et en développant la catégorie des jus, on va booster Tropicana. Et ben nous, aujourd'hui, c'est pareil. Avec notre position, on doit développer la connaissance du métier dans la mobilité et faire en sorte que, quand on pense mobilité, ben on pense Sixt. Quand on veut louer une voiture, quand on veut réserver un chauffeur, mais aussi quand on veut travailler. Et ça c'est fondamental.
Ouais, c'est bien, il y a plein de jeux de mots chez vous, l'autonomie, des voitures et chez vous, et à la fois aussi...
On a un très bon community manager, on a un très bon directeur marketing. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière... Le dernier nudejacking qu'on a fait sur le Facebook Down qui a eu lieu.
Non, je ne l'ai pas vu. Non,
allez voir. Si on propose à M. Zuckerberg de déconnecter en louant chez nous.
Ouais, c'est très très bon.
On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup Thierry.
Merci.
C'était
merci
un plaisir de vous recevoir et de vous
expliquer
beaucoup plus dans le détail
des ressources humaines de Sixt.
Merci
beaucoup. Merci
travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau général.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job?
Patati et patata.